Test. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'on m'entend dans le studio de Radio Campus Paris. I think so I did. L'émission. Alors, on a encore toujours des problèmes techniques. Surtout que notre réalisatrice du cœur n'est pas là ce soir. Grosse pensée pour toi, Marie-Lou. On pense à toi et j'espère que tout va bien. Donc, bienvenue dans Absence, l'émission qui parle de musique contemporaine. Ça veut dire quoi, musique contemporaine? Musique écrite, musique savante, improvisée, instrumentale, électronique, classique et sûrement autre chose. On approche tout doucement de la fin de saison. Et quelle saison! On a une nouvelle présentatrice, Lorraine, qui va peut-être nous faire une chronique aujourd'hui.
Mais oui, coucou.
Salut Lorraine, ça va?
Ça va et toi?
Ouais, très bien. Tu vas nous faire sur quoi ta chronique?
Sur la musique microtonale.
Oh, un vaste sujet. Tu as attaqué un gros poisson.
Oui, mais ce sera juste un petit bout du gros poisson.
Ça marche. Et du coup, on a toujours dans l'équipe maintenant Yacine, un habitué. Salut Yacine.
Salut. Prévu pour remplacement, mais les conditions techniques sont un peu délabrées.
C'est ça, il apprend à réaliser en 5 minutes chrono sans avoir touché de bouton ni connaissance son, donc tout va bien. Ce soir, donc quel est le programme? Ce soir, on reçoit la compositrice Anaïs Nour Benlachab. Salut Anaïs.
Salut.
Ça fait trop plaisir de t'avoir dans le studio.
Merci de m'avoir invitée.
Les copines de mes copines sont mes copines.
Exactement.
Anaïs Nour Benlachab, donc en France, née en 1996, est une compositrice, performeuse, guitariste, passionnée par la création transdisciplinaire. Elle lit différentes disciplines telles que les marionnettes, la danse, la vidéo et le théâtre, à la composition instrumentale et électronique. Lors de son master, elle mène des recherches sur l'écologie acoustique, ça on va pouvoir en parler, et se spécialise dans l'analyse et la composition de paysages sonores. Alors, on laisse la liste de courses avec les ensembles avec qui tu as composé, mais de nombreux ensembles, et notamment tu as été joué à la Philharmonie de Paris. Après, du coup, tu as fait des études de danse, de guitare, de composition à Montpellier, à Toulouse, et tu as fait l'IRCAM aussi.
Et à Berlin.
Et à Berlin, bien entendu. Bienvenue à toi dans cette émission. Donc toute notre émission va graviter autour de ta musique. Ta musique, je fais tout en même temps. Tu nous as préparé plusieurs morceaux qu'on va diffuser. Le premier morceau, c'est ça. C'est donc le rêve lucide d'une diva en burn-out.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en juste dire quelques mots pour présenter et comme ça je lance la musique après?
Oui, bien sûr. Alors, il s'agit d'une pièce que j'ai composée à la base pour soprano, électronique et animation, donc animation 2D, que j'ai réalisée moi-même. Donc, c'était une première, un gros challenge. Et c'est une pièce que j'ai créée dans le cadre de ma formation à l'IRCAM, donc la formation du cursus de 1 an. Elle a été présentée en septembre 2024 au théâtre avec l'IRCAM. Et donc c'est une pièce qui parle de plusieurs sujets,
okay.
Qui mêle à la fois les textes de la surréaliste Joyce Mansour,
okay.
Et de la musique électronique
instrumentale. Eh bien, lançons ça, comme ça va nous permettre de faire le point technique. donc écoutons ça tout de suite. Et ça a été créé par quel ensemble, enfin par quel
Alors,
instrumentiste?
La chanteuse s'appelle Clara Barbier Serrano.
D'accord.
La soprano.
Super, mais bien, écoutons ça. Donc, Rêve lucide d'une diva en burn-out, créé en 2024, et donc composé par toi, Anaïs.
Thank you.
Tu souilles tous les draps en m'attendant. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu.
À travers mon œil fermé.
Je t'ai vu.
Je t'ai vu. Rampant le mur effrayant de
tes rêves. Tes rêves. Tes rêves. Tes rêves. Tes pieds. Tes pieds. Tes pieds.
Sur la brousse endormie.
Tes yeux. Tes yeux.
Tes yeux. Tes yeux.
Tes yeux.
Tes yeux.
Tes yeux,
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 tes yeux, tes yeux, tes yeux, tes yeux, tes yeux, tes yeux, tes yeux,
pour ouvrir ta tête. Ta tête. Ta tête.
Ta tête.
Ta tête.
Ta tête.
Ta tête. Ta tête.
Ta tête.
Ta tête.
Ta tête.
Ta tête. Ta tête.
Ta tête.
Ta tête.
Ta tête.
Ta tête. Ta tête.
Ta tête.
Ta tête.
Ta tête.
Ta tête.
Ta tête.
Ta tête.
Ta tête.
Ta tête.
Ta tête.
L'homme.
L'homme qui se défend.
L'homme qui se défend.
Un jury de
singes. Un jury de singes.
L'homme qui demande.
L'homme qui demande.
L'homme qui supplie.
L'homme qui supplie.
Sa tête.
Sa tête. Sa tête se cache entre ses jambes poilues.
Et les singes attendent.
Et les singes attendent.
Et les singes
accusent. Et les singes accusent. Défendent.
Rient.
Avant de manger l'homme.
deux rochers aigus vit une femme cassée. Dans le sol jonché de bleuets, un pied a pris racine. Les animaux de la nuit et des rêves la nourrissent de chansons perdues. Elle attend là que le ciel s'éteigne pour libérer l'éternité.
Et superbe pièce, donc rêve lucide d'une diva en burn-out pour voix, dessin animé et électronique. Donc de toi, Anaïs Nour. Je ne sais pas si je dois dire les trois.
Non, Anaïs Nour, ça va, c'est bon.
Ouais,
c'est...
d'accord. Eh bien, tu peux. On a déjà brièvement expliqué cette pièce. Déjà, tu avais déjà composé pour la voix avant ou...
Oui, j'avais déjà composé pour la voix, mais complètement un autre format. C'était une version trio de jazz, mais contemporain.
Okay. Ouais,
donc là, c'était la première fois pour voix et électronique.
D'accord.
Et c'était très intéressant.
Et, et du coup, tu as un rapport au sample, etc. Enfin, parce que j'ai écouté toutes les musiques que tu m'as envoyées, et ce sampling, j'ai l'impression qu'il est important pour toi.
Oui. Alors, disons que ça dépend des pièces. Je me sers pas mal du sampling pour les pièces d'improvisation où il y a de l'improvisation dedans. Okay. Dans pratiquement toutes mes pièces, il y a un certain degré d'improvisation,
ah oui,
mais certains plus que d'autres.
D'accord.
Là, en l'occurrence, pour cette pièce, j'ai pas beaucoup utilisé de sampling.
Oui.
Ouais, ouais.
Oui, c'est vrai.
Oui,
ma question est décalée.
Non, t'inquiète pas. Mais par contre, j'ai exploré... Finalement, j'ai exploré à travers une narration beaucoup d'aspects symboliques de la voix ou presque clichés, quoi, de la chanteuse d'opéra,
oui,
des démons de la chanteuse d'opéra telle qu'on la perçoit, quoi, la diva, et de qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur. Bon, ça, c'est les textes magnifiques de Joyce Mansour qui,
ouais,
ont permis cette exploration.
D'accord. Et donc là, quand même, on peut dire qu'il y a un sample quand même avec l'électronique, des bruits de nature. Toi, tu récoltes ces sons? Comment tu les fais? Ou tu les prends sur Universal Soundbank?
Alors, il n'y a pas de honte à prendre des choses sur les soundbanks, même si tous mes sons, je les prends moi-même.
Ouais,
ok. Je prends beaucoup de... Ça fait partie de mon quotidien de prendre des sons.
D'accord.
Qui m'entourent. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de sons et j'enregistre tout.
Ouais, d'accord.
Tous les sons que je trouve intéressants ou pas, d'ailleurs.
Oui. Alors, c'est quoi ton processus d'enregistrement? Est-ce que tu as plusieurs micros? Est-ce que tu as plusieurs enregistreurs? Ou est-ce que tu fais ça au téléphone ou...
Bon, c'est un processus très simple. J'ai un Zoom.
Ouais, ok. Mais,
d'assez bonne qualité.
Simple et mieux.
Voilà.
Ouais.
Une perche et quelque chose pour protéger du vent.
Mais quand même une perche.
Voilà. Quand même une perche.
Ok.
Et j'essaie de l'avoir le plus souvent possible avec moi. Après cette pièce, j'ai eu la chance de la réaliser à l'IRCAM. Donc,
ouais.
Tous les enregistrements ont été faits d'une manière très professionnelle et c'est quand,
okay,
même très agréable,
ouais,
de faire ce genre de travail.
Oui, parce que dans ton cursus, finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, t'as été danseuse, guitariste, performeuse. Et du coup, déjà, ce qui amène à la question, comment est-ce que t'as connu cette musique contemporaine? Est-ce que, par exemple, c'est par la danse ou par la guitare ou...
Alors, pas du tout, parce que j'ai une éducation très classique. Donc, j'ai vraiment fait guitare classique, danse,
okay,
classique, tout très classique. Après, j'ai exploré le jazz. J'ai fait du saxophone jazz avec un saxophoniste qui s'appelle Abdou Salim.
Okay.
Et j'ai découvert déjà un autre monde qui m'a un peu familiarisée avec l'improvisation, avec une forme de liberté que je ne trouvais pas forcément dans la musique classique. Et après, ça s'est fait un peu par hasard, en fait, parce que je suis arrivée à Toulouse, donc je suis partie de Montpellier à 18 ans, après mon bac,
ouais,
et je suis arrivée à Toulouse, au conservatoire de Toulouse. J'ai vu une classe de composition, je me dis, bon, ben, on va essayer, sans vraiment... Enfin,
tu es tombée dans le piège.
Voilà, c'est ça. Disons que comme tous les gens issus du conservatoire, je connaissais Stravinsky. Enfin, pour moi, c'était un peu ça, la musique moderne, finalement.
Okay.
Peut-être Schoenberg, oh là là. Mais pas beaucoup plus. Et finalement, donc, je suis arrivée à Toulouse et j'ai fait ce concours pour entrer dans la classe de Bertrand Dubaudoux, qui est un compositeur d'excellence et un très bon professeur. Voilà. Okay. Et là, j'ai découvert la musique électro-acoustique en premier. Et ça a été un choc. Voilà, j'ai trouvé une grande liberté, comme une matière qui permettait finalement de rassembler justement tous ces intérêts très divers. Autant la philosophie, la musique en soi, mais aussi la danse, le théâtre, la poésie, la voix. Et c'était comme un, hop, un champ de liberté qui s'ouvrait, en fait. Et c'est comme ça que je suis entrée dedans.
Trop bien. Et on va passer à ta prochaine pièce. Donc ça s'appelle Fugato primitif.
Oui, exactement. Ouais,
je suis pas trop mauvais. tout à l'heure, on parlait d'improvisation et tu nous disais qu'il y avait toujours un rapport à l'improvisation dans tes pièces. Alors, ce qui est déjà en soi d'envergure, parce que dans la musique française, en général, la contemporaine française, c'est encore assez mal vu de dire « Ah non, improviser !» Du coup, les instrumentistes, souvent, ils disent « Ah, mais c'est parce que t'as pas travaillé. » Mais non, ça peut quand même aller plus loin que ça. Et est-ce que dans la pièce qu'on va écouter, il y a de l'improvisation aussi, finalement ?
Oui, totalement.
Alors, et comment tu la notes, cette improvisation ? Est-ce que c'est des indications ou est-ce que c'est...
Alors, pour chaque pièce, c'est un processus différent. C'est pour ça que pour moi, c'est intéressant d'utiliser l'improvisation parce que je l'utilise toujours de manière un peu différente. Je recherche, en fait, en fonction des gens avec qui je vais travailler, mais aussi du but que j'aimerais atteindre. Pour cette pièce, en l'occurrence, je me suis inspirée... Donc, c'est une pièce qui est inspirée d'enregistrement que j'ai fait au zoo de Berlin de Siamang. Donc, ce sont des primates très impressionnants et qui chantent très bien. Et en fait, en analysant leur enregistrement, c'était quatre Siamang dans une cage. Et j'ai vraiment analysé de près et je me suis rendu compte que, en fait, la forme et la structure de leur chant reflétaient celle des fugues de Bach. Donc, quatre Siamang dans une cage qui chantent une fugue. Donc à partir de là, voilà, c'était... Et donc là, par exemple, j'ai envoyé ces enregistrements aux quatre saxophonistes. Je me suis dit, en plus, je dois écrire une pièce pour quatre saxophonistes, c'est quand même incroyable. Donc je leur ai envoyé avec des petites notations de ce que j'avais réussi à noter, de reprendre les chants des Siamang. Et je leur ai demandé, essayez de vous approprier cette matière, d'improviser. Ils m'ont renvoyé des enregistrements. J'ai travaillé à partir de ces enregistrements. Et dans la pièce elle-même, il y a des choses qui sont notées, comme des motifs qui sont repris. Vous allez entendre au tout début et à la toute fin, comme une forme lead. Très, très belle. Et donc là, en fait, ce sont des improvisations à partir de ces enregistrements-là.
Ok. Eh bien, écoutons ça tout de suite. C'est qui le quatuor de saxophone ?
C'est le quatuor Quasar Quartet, donc un quatuor canadien.
Superbe. Ben, bonjour nos amis canadiens. Quel enfer. On écoute ça tout de suite. Donc Fugato primitif, donc de la compositrice Anaïs Nour, avec nous sur Radio Campus Paris 93.9. Absence.
Thank you.
Et on est toujours à l'écoute de Radio Campus Paris. Juste, si tu peux baisser les micros. Il y a un truc bizarre. Ah, là, ça va. Non, à peu près.
Moi, ça va, je crois.
Ouais, je sais pas. Y a... ah, non, ouais. Bref, on est toujours à l'écoute de Radio Campus Paris. On coupera ça au podcast. Donc, on écoutait donc Faux Gâteau Primitif. C'est ça. Donc, de la compositrice Anaïs Nour. C'était un quatuor de saxophone à électronique. On a retracé un petit peu. Donc toi, tu enregistres beaucoup, tu recomposes, tu décomposes. Tu as un rapport à l'improvisation assez, assez fou. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Ta manière d'écrire des partitions, toi, comment tu les écris ? Est-ce que, pour se plonger un peu dans le truc, est-ce que tu écris purement papier au début, des esquisses, et après sur ordinateur ? Ou alors est-ce que tout se mélange ? Est-ce que tu composes avec la fenêtre fermée chez toi ?
Ah ben. Alors, moi, je compose toujours au départ avec des dessins. J'ai une forme de compréhension du son qui passe vraiment par le dessin, en fait.
Okay.
Avec des dessins en couleur. Alors, allez pas me demander la signification de ça. Mais toutes les pièces que j'ai composées, elles sont passées d'abord par cette étape-là. Et finalement, une fois que j'ai fait ce croquis en couleur, la partition devient plus claire. Et là, je me mets à écrire. J'écris à la table, j'écris pas à l'ordinateur.
Ouais, ok. Très intéressant. Et est-ce que tu as pris des cours de dessin ou est-ce que c'est un peu comme ça ?
Non, j'ai jamais fait de cours de dessin, mais j'ai toujours beaucoup dessiné depuis que j'étais petite.
Puis l'écriture, c'est une forme de dessin aussi, même l'écriture musicale.
Oui, oui. Moi, je crois beaucoup en l'intelligence de la main, relié au cerveau, quoi.
Et alors, c'est peut-être ça qui va lier à la chronique. Est-ce que tu as des exemples de compositeurs ou compositrices desquels que tu prends un peu comme des maîtres à penser ou maîtresse à penser, est-ce que t'as des exemples de compositeurs compositrices sur qui leur travail t'a inspiré,
qui m'ont influencé? Alors oui, il y en a beaucoup.
Ouais,
pour en citer quelques-uns, déjà évidemment il y a mes anciens professeurs, donc Bertrand Dubedoux, qui m'a beaucoup, beaucoup influencée, parce que j'ai quand même appris dès le départ avec lui la musique électroacoustique, donc ce rapport au dessin et tout ça est né vraiment de ça. Ensuite, finalement, j'ai l'impression que ce sont les compositrices et compositeurs que je côtoie qui m'influencent le plus, même si, bien sûr, je suis influencée par les grandes œuvres de Xenakis, de Ligeti, des grands compositeurs, mais finalement, ceux qui m'influencent le plus, c'est ceux avec qui je discute. Je pourrais citer mon ami Vincent Portes, qui est un excellent compositeur que vous devriez inviter au passage.
On est en note.
Et ou Claudia aussi, de la même manière.
Qu'on a invité d'ailleurs, il y a 2 ans.
Oui. Et en fait, j'écoute de la musique de tous les genres. Donc finalement, j'ai des influences qui sont très très variées, pas que contemporaines. Ouais. J'écoute beaucoup de salsa, beaucoup de musique qui n'ont rien à voir, quoi, finalement. Ouais. Et j'ai l'impression que, au-delà des inspirations des grands maîtres qui sont évidemment là, c'est plutôt cette inspiration-là générale de tous les styles de musique, des expériences et des gens avec qui je discute, des compositeurs, pas forcément que compositeurs, des artistes en général.
Trop bien. Eh bien, allons-y, je me tourne vers toi, Lorraine. Ton micro est allumé.
C'est bon, tout est en place.
Tout est en place. Tu as armé les sons, ça y est. Presque. Donc toi, tu vas nous parler microtonalité.
Exactement.
Tu as 5 minutes.
Allez, c'est parti. Donc quand on parle de musique contemporaine, il y a un grand débat qui clive tout le monde, qui clive Michael. C'est la musique tonale versus la musique atonale. La musique tonale, enfin, t'es pas clivé en fait, c'est bon. T'as choisi ton camp.
Non, mais je remets toujours en question.
Bravo. C'est
j'ai choisi mon camp, mais mon camp, des fois, il est pas super.
Donc la musique tonale, pour faire simple, c'est celle de Mozart et de Beethoven. Et elle est toujours composée maintenant par des gens qu'on appelle les néotonaux. Et la musique atonale, pareil, pour résumer, c'est tout le reste, mais c'est surtout représenté par des noms comme Schoenberg ou Boulez. Et ces deux types de langages musicaux sont rivales depuis le XXe siècle. Et donc cette musique tonale, on la comprend facilement. Toute la musique pop aussi, c'est de la musique tonale. Et au contraire, la musique atonale, ça sonne bizarre et c'est incompréhensible. Sauf qu'en fait, on peut faire encore plus bizarre que la musique atonale, parce que la musique atonale, encore une fois, englobe plein de trucs, mais en général, utilise les mêmes notes que la musique tonale. Donc, elles sont organisées de manière très différente, ce qui la rend si inhabituelle à l'oreille. Mais on retrouve les 12 notes de la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, avec les dièses et les bémols. Mais entre ces notes, on peut jouer d'autres nuances de notes, on peut jouer d'autres des entre-deux, quoi. Et en fait, il y a plein de gens qui jouent avec d'autres notes, qui ont théorisé ça et tout, notamment en dehors de l'Occident, par exemple, mais il y en a plein. Dans la musique indienne, il n'y a pas du tout 12 notes, et on en utilise beaucoup, beaucoup plus. Mais dans la musique savante de tradition occidentale, comme on dit, il y a aussi des gens qui s'y sont intéressés. Par exemple, Harry Partch, c'est un des grands noms de la musique microtonale. C'est un compositeur américain du XXe siècle qui a donc beaucoup travaillé sur ça, qui a théorisé la microtonalité et qui a composé de nombreuses pièces qui utilisent des notes inconnues ou des notes pas habituelles. Et on va écouter justement le début de sa sonata Dementia, interprétée au Microfest de Los Angeles en 2015. Et donc, on dirait là, à l'écoute, que c'est faux, que c'est désaccordé. Et en fait, c'est exactement ça, puisque c'est des notes qui tombent pas pile sur celles de d'habitude, mais c'est fait exprès. Et Harry Partch, pour jouer cette musique, il a construit plein d'instruments, parce que sur un piano, c'est un peu compliqué de jouer une note entre le do dièse et le ré. Et ensuite, il y a eu d'autres instruments qui ont été développés, qui avaient a priori rien à voir avec la musique microtonale, des instruments électroniques, qui ont permis de vachement démocratiser ce langage, notamment des synthétiseurs. Et il y a plein de styles différents qui se le sont appropriés, du jazz ou de la musique pop qui s'éloignait de la musique savante. Et là, on va écouter par exemple Paranola, une microtonal piano étude, par une compositrice active sur YouTube qui s'appelle Zeana Heroes. Et c'est interprété par la compositrice sur un clavier électronique qui s'appelle le Lumatone, qui fait en plus des jolies lumières. On y va. Et c'est quelque chose qui inspire toujours beaucoup les compositeurs contemporains.
Une harpe désaccordée.
Oui, c'est ça. Et il y a le côté un peu alien aussi, souvent. Ouais. Les gens évoquent des musiques aliens, des musiques d'extraterrestres. Et il y a toujours cette recherche dans les instruments, puisque la dernière pièce qu'on va écouter pour finir cette chronique, en 5 minutes, c'est une pièce de Pascal Criton pour une guitare à 16 tons qui s'appelle « La ritournelle et le galop », qui est interprété par Didier Achour. Thank you.
donc on écoutait une composition de Pascale Criton, compositrice qui sera sûrement avec nous l'année prochaine, la saison prochaine. Mais, tiens, j'en profite pour dire, oui, nous continuerons à avoir ce créneau une semaine sur deux l'année prochaine sur Radio Campus Paris. Incroyable. Et on espère avec des réalisateurs et des réalisatrices. Et donc, toi, est-ce que dans ton travail, Anaïs, Nour, la microtonalité, c'est quelque chose que tu aimes bien, que tu explores, que tu utilises tout le temps, pas souvent, pas du tout?
C'est pas un axe majeur de mes compositions, je l'ai utilisé beaucoup de fois, mais je trouve ça très intéressant, surtout dans les pièces qu'on vient d'entendre, où vraiment c'est maîtrisé, c'est très très beau. Mais disons que mon approche de la composition, elle est plus électroacoustique finalement, ouais. au niveau des matières, d'accord, au niveau des couleurs, tout ça. Donc bien sûr, ça participe de cette élaboration-là, mais c'est pas quelque chose de principal. Disons que je m'en sers comme d'un outil parfois.
D'accord. Et alors, justement, là on va tout doucement aller vers la fin de ces émissions. Et on va s'intéresser à la pièce Carte postale sonore, donc, qui date de 2025. Elle est toute chaude. Elle sort du four. Et pour Ensemble et électronique, donc c'est 2E2M qui a joué ça.
Et Collectif Loup.
Et Collectif Loup, ouais, pardon. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept de ces cartes postales sonores?
Oui, alors en fait, l'idée de la carte postale sonore, c'est tout simplement de faire vivre un voyage à travers une composition. Donc c'est très 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 simple comme idée. Et d'avoir un petit peu cette esthétique de la carte postale, donc à la fois un peu humoristique, parce que bon, ouais, qu'est-ce qu'on dit vraiment dans une carte postale à part salut, ouais, ouais. Et la météo, quoi. Ouais. Voilà. Et à la fois, ça a beaucoup de signification, parce qu'on les écrit dans des moments de pure découverte, souvent où on est un peu dérouté, donc voilà. Et cette carte postale-là, en l'occurrence, je l'ai écrite suite à un voyage que j'ai fait donc cette année en Asie du Sud-Est. J'ai visité pas mal d'endroits en Thaïlande et en Indonésie, et donc je me baladais avec mon enregistreur.
Ok.
Et j'enregistrais des paysages sonores, quels qu'ils soient, de box, vous allez entendre, ou
okay,
de temples, ou même de pièces musicales. Voilà. Et à partir de ça, donc, j'ai composé une forme, qui est une forme non pas ouverte, mais qui, à l'intérieur de cette forme, a des formes d'ouverture pour travailler avec les musiciens donc de The Deuxième et Lou. Et on s'est retrouvés pendant 3 jours, on a travaillé... avec aussi, il y avait d'autres pièces de d'autres compositeurs, et on a travaillé autour de l'improvisation à l'intérieur de cette forme.
Okay.
Et donc voilà, ils ont apporté beaucoup, beaucoup à la création.
Ok. Ouais. Et avec 2E2M, du coup, cette relation avec cet ensemble qui est un peu émergent, qui commence à vraiment dominer la scène de la musique contemporaine, ça s'est passé comment, notamment avec son chef, Léo Margue?
Ah, bah, c'était extraordinaire. C'était vraiment une super expérience. Que ce soit d'ailleurs The Deuxième ou le collectif Lou,
oui,
c'était vraiment un ensemble total, c'est-à-dire qu'il y avait une ouverture, une volonté, okay, de créer ensemble,
trop bien,
qui est assez exceptionnelle.
Et dans la pièce qu'on va écouter, donc cette carte postale sonore, moi je sais pas, j'ai un peu ressenti une sorte de trame semi-médiéval futuriste.
Alors
est-ce que le médiéval futurisme n'est pas le futur mouvement?
On espère. Ouais. Enfin,
mais c'était un peu ça que tu voulais.
Alors là, dans cette pièce, il y avait vraiment l'intention de mettre de la qualité au niveau des matières sonores, tout ça, un travail de fond, mais aussi d'avoir une légèreté, d'avoir quelque chose de l'ordre de l'humour et un peu de la rigolade, quoi.
Ouais,
voilà.
Okay.
Et je trouve que ça a plutôt bien marché, que ça n'enlève pas forcément à la qualité finalement des œuvres, parfois ouais, d'associer les deux. Et ça a été plutôt bien reçu, donc accessible, donc,
okay,
je pense, par les musiciens, par le public, d'après mon ressenti, ce qui n'est pas vraiment trop
bien. Okay. Ok, trop bien. Et ça a été bien reçu par le public aussi?
D'après
ils
ce que j'ai compris,
en
oui.
Courant,
non, j'ai eu des retours très sympathiques.
Trop bien, ok.
Voilà.
Et alors moi, une dernière question avant de raccrocher avec cette pièce. C'est toujours, moi, c'est parce que je l'ai vécu, quand tu amènes des projets pluridisciplinaires dans des, mmh, dans des salles de concert spécifiquement, dédiées à la musique, justement, est-ce que ça se passe bien? Parce que, est-ce que c'est bien reçu? Est-ce que tu as les moyens de le faire? Est-ce qu'avec la sécurité ça passe? Est-ce que,
d'un point de vue technique, un petit peu.
Ouais, c'est ça, parce que finalement, j'ai l'impression que c'est ce qui empêche beaucoup de compositeurs et de compositrices de proposer des choses comme ça. C'est déjà qu'il y a une résistance de l'ensemble, il y a une résistance de l'institution, il y a une résistance de tout ça. Et en France, on aime bien compartimenter les choses.
Oui, c'est vrai qu'on aime bien compartimenter. Alors, avec cette pièce-là, j'ai rencontré aucun problème, parce que c'était clair depuis le début... qu'est-ce qu'on pouvait faire,
ouais,
okay. Aussi l'ouverture de théâtre
artistique. Oui, puis c'était quand même un lieu autre.
Un lieu alternatif, la Marbrerie, le Cirque Électrique, ça s'est quand même très bien passé. Après, c'est vrai qu'on doit s'adapter aux moyens, toujours.
Ouais.
Donc ça veut dire que si, par exemple, pour la création de ma pièce avec la Diva, donc pour Soprano Électronique Animation, oui, il y avait une contrainte matérielle, donc c'est-à-dire le décor, tout ça, il faut quand même s'en préoccuper. Après, j'ai l'impression que les gens qui nous accueillent font leur maximum, mais qu'au même, on passe de budget. Donc, en fait, la réponse à ça, c'est plus de budget pour la culture.
C'est ça. Eh bien, nous finirons sur ces belles paroles. Encore une fois, est-ce qu'on peut t'écouter prochainement quelque part?
Alors, mon prochain concert, ce sera à Royaumont, entre le 21 et le 23 août, à repréciser, pour l'Académie de Royaumont.
Ok, ça va. Voilà. On fera sûrement une émission à Royaumont, on a envie d'y retourner.
Génial.
Et je propose qu'on se quitte gentiment sur cette pièce. Donc, carte postale sonore par l'ensemble 2E2M et le collectif Lou, composé par Anaïs Nour, qui nous a fait l'honneur et la gentillesse de venir avec nous ce soir. Merci
beaucoup pour votre invitation. C'était très, très chouette.
Merci Lorraine pour sa chronique. Cœur, kawaii. Merci Yacine. Tu nous as sauvé la vie ce soir.
Merci Yacine.
Salut, merci. Restez bien à l'écoute de Radio Campus Paris. Après, je crois que c'est une émission sur le jazz. Et restez curieux auditivement et intellectuellement. Et puis on se revoit dans 2 semaines. Et je crois que c'est la compositrice Julia Le Russo que t'as décidé d'inviter, Lorraine. Mm-hmm. Et c'est toi qui prendras les rênes.
Let's go.
Moi, j'irai m'acheter des bières. Salut.
Triangle-shaped sunburn in the middle of my belly.
aujourd'hui, 36 degrés à l'ombre, température ressentie, hammam tropical. Chaleur écrasante sur toute la région. Pensez à boire des noix de coco. Des noix de coco. Des noix de coco.